Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Lucas Lazo, mais aussi Margot Leridon et Bertie Bourdon, réalisée par Émilie Valla et mise en onde ce matin par Sylvain Latu. On poursuit notre série consacrée aux arènes des inégalités de genre. Lundi, nous avons parlé de la féminisation des sphères politiques et des blocages qu'il reste encore à dépasser pour avoir des instances décisionnelles plus paritaires. Mardi, nous avons parlé de l'école et de son rôle dans la construction et la déconstruction des stéréotypes de genre. Avant de nous intéresser demain à la place des femmes dans l'espace public et dans la ville, aujourd'hui, concentrons-nous sur la place des femmes dans le marché du travail. La maternité, l'éternel obstacle, point d'interrogation, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Notre taux d'emploi des femmes est parmi les plus importants et cela représente des impôts. Nous avons aussi un taux de natalité très élevé en Suède. C'est parce que les gens se sentent soutenus pour fonder une famille.
En principe, la mère prend la première partie du congé parental et le père prend le relais. J'ai lavé le sol, les vitres, je cuisine. Comme ça, le dîner est prêt quand ma femme rentre à la maison. C'est complètement normal, tous les papas le font.
Les femmes restent sur le marché de l'emploi. Elles progressent au niveau du salaire et deviennent managers. Ça a beaucoup favorisé la croissance de notre économie.
Ça va permettre de réduire les discriminations à l'embauche. Les femmes ne seront plus considérées comme prenant beaucoup plus de congés. Et à côté, cela renforce le rôle des papas.
Extraits de reportages qui vont de la Norvège à la Suède en passant par l'Espagne. Si les Européennes sont plus nombreuses sur le marché du travail, la maternité reste un frein à leur carrière et constitue une source d'inégalité entre les hommes et les femmes, avec des taux d'emploi qui ne cessent de baisser à mesure que le nombre d'enfants augmente. Pour que fonder une famille ne soit pas synonyme de sacrifice pour les femmes, l'Union Européenne tente depuis quelques années maintenant de promouvoir l'égalité professionnelle et d'inciter les pays à mettre en œuvre des politiques publiques. De la démocratisation des modes de garde aux congés parentaux, les mesures proposées permettent, en théorie en tout cas, de mieux répartir les tâches domestiques, mais se heurtent parfois au manque de volontarisme politique et à la barrière des normes sociales. Alors, quelles répercussions la maternité a-t-elle sur la carrière, le salaire et même l'ambition professionnelle des femmes? Les politiques publiques mises en place sont-elles suffisantes? Sont-elles efficaces? Quels obstacles institutionnels et culturels limitent encore la réduction des inégalités professionnelles? Pourquoi les bonnes intentions provenant de l'Union européenne ne parviennent pas toujours à se transformer dans les politiques des différents États membres? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin deux personnes. D'abord, Hélène Périvier, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste à l'OFCE de Sciences Po et vous êtes directrice du programme Présage, qui est un bel acronyme, le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre. Avec nous également Mathilde Gergoat-Larivière, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences économiques au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, et vous êtes chercheuse au Centre d'études de l'emploi et du travail. Récemment, il y a eu une étude de l'INED qui se penchait sur la question des écarts salariaux et qui soulignait l'importance de la maternité sur leur permanence. En effet, alors que dans les années 90, on a eu un basculement par lequel les femmes sont devenues, en tout cas en moyenne, plus diplômées que les hommes, l'écart moyen des salaires, en tout cas dans le secteur privé, n'a pas beaucoup évolué depuis. Et l'explication, Hélène Périvier, serait essentiellement due à la question de la maternité. La maternité agit comme le principal frein à l'égalité salariale et plus généralement, c'est le principal moteur des inégalités de genre au travail. Ça reste le principal moteur.
Oui, et ça le reste par deux canaux différents. Un premier canal qui est très direct, qui est quand on a un enfant, le plus souvent, c'est la mère et pas le père qui va mettre de côté sa carrière. Alors, plus ou moins, un temps partiel, refuser une promotion ou carrément se retirer du marché du travail le temps que l'enfant soit scolarisé. Ça, c'est un effet direct parce que clairement, elle n'aura pas la carrière qu'elle aurait eue si elle ne s'était pas interrompue. Et puis, il y a aussi un effet indirect qui est moins connu, qui est que même si les femmes ne s'arrêtent pas de travailler lorsqu'elles ont des enfants, même si elles continuent à être extrêmement impliquées dans leur carrière, même si leur conjoint les aide énormément, le fait d'appartenir à cette catégorie femme fait que en moyenne, on va considérer qu'elles ont quand même un soupçon d'être un peu moins investies dans leur carrière. Et de fait, elles vont être moins promues. Donc, il y a beaucoup d'effets indirects aussi liés à cette question de la maternité et surtout liés au fait que l'éducation des enfants, encore aujourd'hui, est essentiellement portée par les femmes.
Et alors, il ne faudrait pas penser que c'est simplement la France qui est concernée par tout cela. C'est l'ensemble des pays de l'Union européenne. Non, je dis ça parce que c'est vrai qu'on va le voir, la France est assez en retard en la matière, notamment sur la question du congé. Mais toutes les études scientifiques, Mathilde Gargouat-Larivière, convergent vers cette idée qu'il y a effectivement une pénalité à la maternité. Les anglo-saxons appellent ça le child penalty. C'est très partagé, toutes les études en Europe le montrent.
Oui, effectivement, on a des écarts salariaux dans la plupart des pays européens et qui sont plus ou moins marqués, avec des écarts particulièrement élevés dans certains pays comme par exemple l'Allemagne ou le Royaume-Uni ou l'Autriche.
Et même chez les Nordiques, hein, on va en parler, qui ont un modèle peut-être plus intéressant, même chez eux.
Oui, tout à fait. En fait, il n'y a aucun pays où on arrive à une égalité parfaite, que ce soit en termes de salaire ou en termes de partage du congé parental. On a dans aucun pays, même dans les pays scandinaves, on n'a pas d'égalité observée, même dans ces pays-là. Et puis, il y a des pays dans lesquels les inégalités salariales sont plus réduites. Et ça peut être lié au fait que, lié par exemple à la discrimination, à l'effet de la maternité, etc. Il peut y avoir aussi quand même un petit biais qui est lié au fait que dans certains pays, les femmes se portent moins sur le marché du travail, sont moins souvent actives en emploi. Et donc, du coup, dans ces cas-là, celles qui sont sur le marché du travail peuvent être les plus diplômées, etc. Et donc, du coup, l'écart salarial peut être un peu réduit de ce fait. Et je pense que ça montre que l'écart entre mes femmes se joue en termes de salaire, mais se joue déjà avant ça en termes d'accès à l'emploi également.
Et l'injustice est double, si je puis dire, parce qu'à l'inverse, la paternité, elle, c'est ce qu'on constate, joue plutôt comme un accélérateur dans les carrières des hommes.
Oui, soit on voit rien en fait, soit pour certains hommes c'est quelque chose qui va enclencher un plus grand investissement, avec toujours en tête cette idée plus ou moins claire que c'est quand même à lui de pourvoir aux besoins de la famille. Donc c'est quand même un modèle très ancré dans notre modèle social et de fait il y a encore cette idée que il faut travailler plus quand on a des enfants.
Mathilde Gargouat-Larivière, il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est que quand on s'intéresse à la question des écarts salariaux, on observe que pendant un moment, en tout cas, il y a eu une période en France où on arrivait un peu à les réduire jusqu'aux années 90. Et puis à partir des années 90, on n'y est plus arrivé. Pourtant, les femmes faisaient des enfants avant, après. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on y arrivait pendant un moment et pourquoi on n'y arrive plus maintenant?
Il y a eu une tendance à l'augmentation du niveau d'éducation des femmes, donc a permis de réduire un peu le gap. Mais il y a toujours des éléments qui persistent et qui expliquent toujours cet écart. Alors il y a l'écart expliqué et l'écart inexpliqué, c'est-à-dire que là, on parle essentiellement pour l'instant de l'écart inexpliqué, donc qui peut être de la discrimination statistique, comme le disait Hélène, c'est-à-dire que il y a un soupçon de maternité qui pèse sur les femmes et on sait qu'elles risquent de plus s'occuper de leurs enfants si elles en ont, donc elles sont a priori discriminées à cause de ça. Mais par ailleurs, dans les écarts salariaux, il y a aussi tout le reste, c'est-à-dire le fait que les femmes sont plus présentes dans des emplois peu qualifiés, alors même qu'elles sont justement plus diplômées depuis un certain temps, qu'elles ont moins accès à des postes élevés, donc le fameux plafond de verre, qu'elles sont plus à temps partiel. Donc quand on prend en compte tous ces éléments-là, en fait, l'écart salarial est même plutôt de l'ordre de 25%. Mmh. Effectivement, on a du mal à faire baisser à la fois cet écart-là et l'écart de discrimination pure depuis quelques années.
Hélène Périvier, pourquoi on y arrive? Pourquoi on n'y arrive plus?
Alors d'abord parce qu'il y a une dynamique, hein, donc on peut y arriver pendant un moment, puis au bout d'un moment ça devient plus compliqué à la marge de faire des progrès. Il y a aussi un élément qui est très important et qui est particulier pour la France, c'est que les femmes sont entrées sur le marché du travail à temps plein, historiquement en France, et à partir des années 90, pour de multiples raisons, on a développé des politiques publiques qui encourageaient l'emploi à temps partiel, notamment pour réduire le chômage, hein, enrichir la croissance en emploi. L'idée, c'était c'est mieux d'avoir deux personnes à temps partiel qu'un chômeur et un travailleur. Et ces politiques, elles ont eu beaucoup d'impact sur les personnes non qualifiées et aussi, de façon générale, sur les femmes. Et ça a été perçu de façon plus générale ensuite comme une politique d'articulation des temps sociaux des femmes. Alors évidemment, le problème, c'est que ce sont que les femmes qui articulent leur temps. Et de fait, ce temps partiel s'est beaucoup développé en France. Il reste quand même moins important que dans d'autres pays. J'ai tweeté un graphique où on voit la comparaison France-Allemagne pour donner un peu une idée claire de cet effet-là. Mais on voit qu'aux âges de la maternité en Allemagne, le temps partiel a un énorme effet sur la participation, enfin sur l'emploi, le volume d'emploi réalisé par les femmes. En France, c'est moins important, mais néanmoins, c'est quelque chose qui date des années 90, c'est assez récent. Donc on a d'une certaine façon renoncé à cette marche égalitaire dans laquelle les femmes rentraient à temps plein sur le marché du travail pour avoir cet ajustement différent par leur temps de travail. Et de fait, quand les femmes travaillent à temps partiel, on ne peut pas construire d'égalité salariale sur cette base-là.
Alors, on va rester un petit peu sur la France, et puis ensuite, on ira voir un petit peu ailleurs, du côté des modèles nordiques, justement, pour voir si ça fonctionne mieux, et puis on regardera ce que l'Union européenne a fait, et avec quels effets pour l'ensemble des pays membres. Mais si on regarde d'abord la question de la France, le congé paternité, c'est l'un des plus courts d'Europe en France. C'est 11 jours, et il est absolument pas obligatoire pour le père. Comment comprendre ce retard de la France en matière de congé paternité par rapport à ses voisins, alors même que l'on est un pays dont on dit que l'État-providence est fort, dont on dit qu'il est socialement généreux, c'est peut-être de moins en moins vrai, mais en tout cas, c'est la réputation qu'il a quand on le compare. Comment se fait-il qu'en la matière, il soit aussi en retard? Mathilde Gargouët-Larivière.
C'est pas complètement facile d'expliquer pourquoi il y a un tel retard de la France en la matière. Ça a été relativement peu porté politiquement. Et c'est vrai qu'il y a eu un espèce de rattrapage, y compris de pays pour lesquels on pouvait ne pas forcément s'y attendre, comme le Portugal sur ces questions-là, par exemple, certains pays méditerranéens, même si le Portugal est toujours un peu à part dans les pays méditerranéens.
L'Espagne aussi, on peut penser à l'Espagne.
Oui, c'est vrai que même l'Espagne, qui a plutôt un modèle traditionnel en termes d'emploi, a priori, a fait des efforts sur cette question. Et donc c'est vrai que la France est très en retard et, alors même qu'on a des chiffrages qui permettent de voir à quel point on pourrait favoriser la prise d'un congé paternité par les pères en le rendant obligatoire, mais aussi en jouant sur d'autres paramètres, comme par exemple la rémunération de ce congé. Et pour l'instant, on en est loin.
La question, Mathilde Gargouët-Larivière l'a dit, le rendre obligatoire, on va y aller tout de suite, Hélène Périvier, est-ce qu'il faut en France rendre obligatoire ce congé paternité?
Alors, ce serait certainement pas l'alpha et l'oméga des politiques d'égalité, mais on pourrait dire que ce serait un signal envoyé à la société française et aux hommes en particulier, qu'il est nécessaire qu'ils s'investissent dans la vie familiale, en particulier quand l'enfant est jeune. Juste sur la question de l'Espagne, c'est intéressant parce que c'est vraiment un pays qui, dans les années 2000, a connu un vrai bouleversement sociétal. Les femmes sont rentrées massivement sur le marché du travail. En une décennie, leur taux de participation a pris 15 points. C'est aussi le pays qui a voté le mariage pour tous avant la France. Et ils ont mis en place ce congé paternité obligatoire de 2 semaines, donc beaucoup plus à l'avant-garde que nous. Un petit résultat intéressant, c'est qu'il y a une étude très récente d'économistes qui a montré que pour les hommes qui ont été concernés par cette obligation du congé paternité, on observe un report de l'âge à l'enfant suivant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si, une fois que les pères mettent un peu les mains dans les couches, on retarde un petit peu l'arrivée de l'enfant suivant parce que finalement, ils se rendent compte que c'est un petit peu de travail. C'est assez intéressant comme résultat.
Mais quand même, on dit aussi que la crise économique est passée par là et que ça peut-être aussi eu de l'effet. Peut-être que les deux
pas
ont
sur
joué.
Cette étude-là, c'est justement. Je tweeterai le lien vers cette étude.
Très bien. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant sur l'Espagne aussi, notamment, c'est qu'il y a effectivement ces 2 semaines de congé obligatoire, mais que ce sont 2 semaines garanties sans perte de salaire. Et ça, c'est très important, parce que voilà aussi un point sur lequel, en France, on est très en retard.
Pas tant que ça, parce que le congé paternité, stricto sensu, c'est aligné sur le congé maternité. Il y a les indemnités qui sont couvertes par la Sécurité sociale, et ensuite, lorsque c'est prévu par la convention collective, l'employeur peut couvrir la perte de salaire. Le plus souvent, quand c'est couvert pour le congé maternité, ça l'est aussi pour le congé paternité. Donc cette question de la rémunération, je dirais qu'elle est plus forte pour la question des femmes, parce que le congé maternité est plus long. Donc pour celles qui ne sont pas couvertes, la perte de salaire, elle est beaucoup plus importante pour les femmes que pour les hommes.
Elle est même colossale.
Exactement.
Mathilde Gargouët-Larivière.
Oui, ça m'inspirait cette question sur le temps partiel des femmes et le fait que les hommes se mobilisent plus dans l'emploi quand ils ont des enfants. Ça m'inspirait une réflexion sur le fait que je trouve ça assez paradoxal qu'on vante le temps partiel pour les femmes dans une optique de conciliation. Et en revanche, quand on a des débats globaux sur le temps de travail et son éventuelle réduction collective, c'est vu comme une mesure rétrograde. Enfin, en tout cas, le débat sur les 35 heures en France a été quand même très, très pénalisé et très compliqué. Et donc, c'est assez paradoxal de voir qu'on est assez heureux de voir qu'on peut réduire le temps de travail pour concilier pour les femmes. En revanche, on a du mal effectivement à le penser pour les hommes. Et on manque de mesures du type congé paternité pour essayer de faire un petit peu bouger les choses.
Alors l'année dernière, le gouvernement français s'était opposé à une directive européenne visant à rendre obligatoire 4 mois de congé par parent non transférable, avec un Emmanuel Macron qui avait dit son opposition face à une eurodéputée qui lui demandait des explications sur les blocages français sur ce congé parental paternité européen. Écoutez Emmanuel Macron, c'était l'année dernière devant le Parlement européen.
Les congés parentaux payés au niveau de l'indemnité maladie journalière, c'est une belle idée qui peut coûter très cher et finir par être insoutenable. Donc en France, nous allons réformer le congé, en particulier le congé parentaux pour le conjoint aujourd'hui qui ne peut pas en bénéficier ou en bénéficie beaucoup moins. Mais je pense qu'il faut avoir une ambition égalitaire, aller beaucoup plus loin, mais nous ne pouvons pas le faire payer par des systèmes, parfois en les déséquilibrant.
Hélène Périvier, que penser de cet argument? Ça coûterait trop cher et ça déséquilibrerait le système. On a une idée de combien ça coûterait?
Alors d'abord, c'est vrai, c'est faux. C'est vrai que les finances publiques, c'est une question importante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en place des politiques publiques sans se soucier de la façon dont on les finance. Ensuite, c'est faux parce qu'en fait, tout est une question d'aller chercher l'argent. C'est sûr que si on conserve le système social tel qu'il fonctionne aujourd'hui, sans revoir des pans qui sont plus conservateurs et sur lesquels on pourrait revenir, on ne va pas pouvoir financer des droits progressistes. Donc, en fait, ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'en gros, il ne veut rien toucher à d'autres, et donc il ne peut rien créer de nouveau. Or, on pourrait parfaitement revenir sur des droits, par exemple les droits fiscaux, je pense notamment à l'imposition des couples mariés pacsés. Une individualisation de l'impôt, ça rapporterait 9 milliards de recettes fiscales par an. Alors, sans aller jusqu'à individualiser, sans vous être trop technique, un plafonnement du quotient conjugal au niveau des enfants, c'est-à-dire qu'on sait que le quotient familial est plafonné, si on plafonnait le quotient qui est dû pour un conjoint, alors ça rapporterait 3 milliards d'euros de recettes fiscales.
J'ai pas tout compris là.
Ben, en fait, dans le système fiscal français, il y a un avantage accordé aux couples dans lesquels les revenus sont très inégaux.
Oui.
Ça, c'est un droit qui est fondé sur Monsieur Gagne-Pain. Donc, dans les années 50, Monsieur travaillait, sa femme était une charge, et donc la capacité contributive de cet homme devait en tenir compte. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais pourtant, le dispositif est toujours là. Ce que je veux juste te dire, c'est qu'il y a une redistribution très forte opérée par le système fiscal. Il suffirait de revenir dessus, même de revenir partiellement dessus, pour dégager les fonds nécessaires au financement d'un congé parental et de prise en charge de la petite enfance, qui soit cohérente avec l'objectif d'égalité. Donc cet argument des finances publiques, c'est un moyen de dépolitiser un peu le débat et de le mettre sous le tapis pour pas trop en discuter.
Donc l'argument du coup, c'est une économiste qui nous le dit, n'est pas recevable. Mathilde Gargouët-Larivière.
Oui, je suis plutôt d'accord sur le fait que s'il y a une volonté politique, on doit pouvoir trouver les sous quelque part, et notamment aussi au sein de la politique familiale, donc en restant à peu près sur les mêmes thématiques. Et par ailleurs, je pense que sur la question du coût et la manière dont on articule les fonds publics et ce qu'on veut faire aux parents et notamment aux pères, la dernière réforme du congé parental, cette fois, elle a été donc menée en 2015, et le but affiché, c'était notamment d'essayer d'avoir un meilleur partage de ce congé parental entre les pères et les mères, sachant que c'est les mères qui le prenaient à plus de 95%. Et en fait, ça n'a pas fonctionné parce que sur les 3 ans de congé parental qui peuvent être attribués, donc jusqu'à la scolarisation de l'enfant, les 2 ans pouvaient être pris par un seul des parents, mais si on voulait pouvoir profiter de la 3e année, il fallait dans ce cas que le 2e parent le prenne. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que si on met juste des dispositifs comme ça sans les financer davantage, bah, le résultat, c'est que les pères ne le prennent pas. Donc en fait, ça ne fonctionne pas, et ça va plutôt dans le sens du fait qu'il faut arriver à dégager des fonds publics pour que ça fonctionne.
Hélène Périvier.
Oui, sur cette réforme, c'est intéressant parce que justement, avec un de mes collègues, Grégory Verdugo, on est en train justement de l'évaluer précisément avec les données de la CNAF, avec le soutien de la CNAF. Et on se rend compte que cette réforme, elle avait 2 objectifs. L'idée, c'était 1, encourager les pères à prendre au moins 1 an de congé. Donc, comme l'a dit Mathilde, il s'agissait sur les 3 ans de réserver 1 an pour l'autre parent, en l'occurrence le père. Mais c'était aussi de raccourcir la période d'inactivité des mères. Et ce qu'on regarde, vous aurez les résultats très vite, parce qu'on devrait avoir le document de travail d'ici quelques semaines, en tout cas avant l'été. Mais ce qu'on a, nous, comme résultat, c'est que c'est vrai que les pères ne l'ont pas pris. Donc, ils n'ont pas pris cette dernière année qui leur était dédiée. Par contre, le retour au marché du travail plus rapide des mères a permis, sur cette année où elles ont travaillé, de compenser à peu près la perte en termes d'allocations qu'elles ont subies dû à cette réduction du congé auquel elles ont droit. Donc, une partie de la réforme n'est pas complètement inintéressante puisqu'elle permet un retour plus rapide des mères sur le marché du travail.
Il y a une autre réforme que je voudrais qu'on évoque, et puis ensuite on quittera la France. Hein. On est quand même ici dans Culture Monde, donc il faut aller voir aussi un petit peu ailleurs. Mathilde Gargouët-Larivière, mais c'est vrai que c'est une réforme qui occupe l'actualité depuis des semaines, pour pas dire des mois, c'est la réforme des retraites. Le gouvernement a annoncé, a expliqué à nombreuses reprises que les femmes seraient parmi les gagnantes de cette grande réforme, grâce à un système qui permet de donner droit à une majoration de 2,5% pour la mère, 2,5% en plus au titre de l'éducation de l'enfant, qui seront partageables mais qui seront attribués par défaut à la mère. On parle de points supplémentaires également pour les mères célibataires. Vous avez publié récemment une tribune dans Le Monde dans laquelle vous remettiez un tout petit peu en cause cette idée selon laquelle les femmes seraient les grandes gagnantes de cette réforme des retraites. Mathilde Gargouët-Larivière, pour quelle raison?
Oui, effectivement, il y avait des doutes importants qui étaient nés notamment du projet de loi et de l'étude d'impact qui était associée au projet de loi. Donc plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que l'étude d'impact ne permet pas du tout de se rendre compte justement de l'effet de la réforme sur les situations des femmes, sur les pensions des femmes. Et notamment dans les cas types qui ont été proposés pour illustrer les situations des personnes du secteur privé, pour voir comment ça allait pouvoir impacter leur retraite, cette réforme, on observait que des cas types qui correspondent plutôt à des trajectoires masculines, c'est-à-dire plutôt des carrières complètes, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de carrière complète, ou alors une carrière heurtée, mais qui correspondait elle-même aussi plutôt à une trajectoire masculine, avec un chômage à 42 ans, et puis indemnisé, puis non indemnisé, puis d'inactivité, mais pas du tout les trajectoires féminines, que pourtant on connaît bien, qui sont bien documentées, c'est-à-dire des alternances avec de l'emploi à temps complet, de l'inactivité, du temps partiel, du chômage. Les femmes sont maintenant autant touchées par le chômage que les hommes, et donc des carrières beaucoup plus discontinues. Et ça, on n'avait absolument aucun élément dans l'étude d'impact pour se rendre compte de ce que ça allait donner sur leur pension. Et plus précisément, il y a quand même eu une fuite dans Le Parisien quelques semaines avant la publication de l'étude d'impact finale, qui avait appliqué ces 6 cas, bon, bien qu'inadaptés aux situations des femmes, qui avait essayé d'appliquer ces 6 cas types à des femmes avec 2 enfants, puisque dans l'étude d'impact, il n'y avait pas de personnes avec enfants, mais dans la version juste avant, on avait quand même essayé de mettre des enfants aux gens, et notamment aux femmes. Et en fait, on se rendait compte que dans ces cas-là, elles étaient majoritairement perdantes. Et ça se comprend en fait quand on décortique un certain nombre de mécanismes qui sont proposés, enfin de dispositions qui sont proposées dans la réforme, que je ne vais pas peut-être détailler ici, mais disons qu'en gros, on manque d'éléments. Qui sont toujours dans le. Oui, tout à fait, qui sont dans le texte qui est proposé au 49.3.
Hélène Périvier, sur cette question.
Oui, il y a. De façon générale, de toute façon, il y a toujours cette question de prendre en compte la spécificité de la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, dans la société en général, dans toutes les réformes qu'on peut mettre en place. À chaque fois, si on nommait cette question, par exemple, de la charge des enfants ou du fait que les femmes ont des carrières plus hachées, on va nécessairement avoir un impact très sexué ou très différencié sur les femmes et sur les hommes. Juste peut-être une remarque sur l'idée des bonus pour enfants qui peuvent être partagés mais attribués à la mère par défaut. Juste pour dire que comme on est dans une situation où le plus souvent encore aujourd'hui la femme gagne moins que son conjoint, il est fort possible qu'une partie des décisions qui soient prises à ce moment-là soit de donner le bonus à l'homme en se disant qu'on n'anticipe pas forcément qu'on risque de divorcer, de se séparer. Et donc ça peut poser un certain nombre de problèmes au moment de la retraite de ces femmes si jamais elles se séparent de leur conjoint.
Oui, puis par ailleurs, le système actuel n'est pas complètement juste et égalitaire. Bien sûr, donc il y a un besoin de réforme quand même. Sur la question de cette maternité, on le disait tout à l'heure, Emmanuel Macron s'était opposé à l'idée d'appliquer cette fameuse directive européenne. Il y a aussi un autre point du coup sur lequel je voudrais vous entendre, c'est ce qui a été proposé par le gouvernement, c'est-à-dire ce fameux index sur l'égalité professionnelle qui a été proposé par le gouvernement d'Édouard Philippe, qui avec cette obligation pour les entreprises depuis 1er mars, donc c'est vraiment tout neuf, de publier chaque année un index sur l'égalité professionnelle avec un certain nombre de critères, 9 en l'occurrence, censés mesurer objectivement les différences de carrière entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est une bonne réponse aux inégalités de genre au travail dont on discute ce matin? Hélène Périvier.
Alors d'abord, on a envie de dire, le plus on mesure, le mieux on pilote, le plus on aura un état des lieux un peu clair de la situation. Donc on va pas dire que c'est pas bien de demander aux entreprises de faire un rapport très documenté sur la question des inégalités salariales. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est la façon dont on construit l'index qui peut être un peu sujet à discussion. Ce qui est un tout petit peu gênant dans la posture qui est proposée là, c'est que, comme l'a dit Mathilde tout à l'heure, quand on regarde les écarts de salaire, en moyenne, les femmes sont, en moyenne en France, à peu près payées 25% de moins que les hommes. La moitié, pas tout à fait, mais presque la moitié de cet écart, c'est dû au temps de travail. Les femmes sont plus à temps partiel. Un tiers de cet écart, c'est dû à la ségrégation des métiers. Les femmes sont plus dans des métiers moins rémunérateurs que les hommes. Un autre facteur important, c'est le fait que les femmes ne sont pas dans les postes à responsabilité. Après, il reste une petite partie qu'on dit inexpliquée, dont on va dire que c'est de la discrimination. Le problème, c'est que la discrimination, il y en a aussi dans les parties expliquées. La raison pour laquelle les femmes ne sont pas dans les postes à responsabilité, c'est aussi parce que leurs carrières sont en partie freinées par des phénomènes discriminatoires. Le problème de cet index, c'est qu'il tente à objectiver des choses en disant, ça va être la petite part de discrimination sur lesquelles il faut impérativement jouer. Et d'ailleurs, c'est interdit par la loi. On n'a pas le droit de discriminer discriminer quelqu'un sur la base de son sexe, c'est déjà bien écrit dans les textes. Et donc là, cet index, il peut être un peu mobilisé comme un blanc-seing, mais voilà, j'ai éliminé toute forme de discrimination dans mon entreprise, alors même que il peut en rester et peut-être des plus importantes et plus structurelles.
Sauf que là, dans ce cas-là en particulier, il peut y avoir des pénalités financières en cas de dérapage, de non-respect. Donc, il y a quand même quelque chose de contraignant, dans cette proposition.
C'était déjà le cas avant, hein, juste pour dire. C'était déjà le cas avant. Oui, ça avait déjà été introduit, l'idée des sanctions financières.
Et appliquées?
Alors après, si on n'a pas effectivement un contrôle suffisamment important et des personnes qui permettent de vérifier que les entreprises rapportent correctement ce qui leur est demandé, ça c'est sûr que ce ne sera pas appliqué.
Mathilde Gergoit-Larivière.
Oui, effectivement, il est annoncé qu'il y aura un contrôle plus important, mais donc ça reste à voir. C'est vrai que les premiers résultats qu'on a eus sur cet index, c'était ceux qui étaient donnés par les très grandes entreprises, puisqu'en fait, ils devaient être divulgués par les entreprises progressivement en fonction de leur taille. Et donc là, au 1er mars, voilà, il y a quelques jours, c'est les entreprises de 50 à 250 salariés qui ont dû publier leur index, mais les grosses entreprises l'avaient déjà publié avant. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont des index qui sont très très élevés, sachant qu'il me semble que c'est autour de, je crois que c'est en dessous de 75% qu'on commence à avoir une pénalité d'un pourcentage de la masse salariale. Donc ça veut dire que ça pose évidemment la question de comment l'index est construit. Il y a des travaux qui vont s'intéresser à la manière dont la construction, même statistique en fait, de l'index peut permettre dans certains cas, enfin risque de gommer certaines inégalités qui persistent. Et c'est vrai que je pense que ce que disait Hélène est important, c'est-à-dire que le gouvernement, quand il a promu cet index, mettait en avant le fait que ce qu'il faut réduire, c'est les 9% inexpliqués. Mais en fait, si on veut combattre voilà, les inégalités femmes-hommes sur le marché du travail, c'est les 25% qu'il faut réduire, c'est pas seulement les 9%.
Hélène Périgueux.
Oui, juste pour dire que avec quelques collègues, notamment Thomas Breda, on avait publié une tribune à l'époque où l'index était proposé pour dire qu'il serait peut-être préférable d'avoir une agence indépendante qui fasse ce diagnostic pour les entreprises, parce que par ailleurs, cet index, il est quand même un peu complexe, on sait jamais trop, c'est très étonnant les résultats qui sortent, et on est très surpris, les chercheurs sont assez surpris de ces très bons résultats qui sortent. Mais voilà, on avait
parce qu'ils sont produits par les entreprises, disons-le.
Voilà, et que du coup, effectivement, et puis par ailleurs...
Donc on est jugé parti dans l'affaire.
Voilà, le diagnostic est probablement un petit peu plus compliqué. Vous avez toute la question de la sous-traitance. C'est sûr que c'est facile pour une très grosse entreprise qui sous-traite tous les petits boulots qui ne sont pas de qualité, qui sont souvent occupés par des femmes. Bah voilà, évidemment, c'est plus facile d'afficher une posture égalitaire. Donc on avait proposé plutôt d'avoir une forme d'agence qui permettrait de faire ces diagnostics-là. Bon, ça n'a pas été retenu, mais on verra ce que cet index donnera dans l'avenir.
Hélène Périvier, regardons ce qui a été fait du côté de l'Union européenne, comment on a développé des stratégies visant justement à lutter contre ces inégalités de genre dans le travail, d'abord en regardant comment améliorer leur participation au marché du travail, ensuite en regardant comment mieux articuler peut-être vie privée et vie de travail, on va voir les choses. Mais d'abord, si on reprend les choses historiquement, Hélène Périvier, depuis quand l'Europe, l'Union européenne, s'intéresse-t-elle à cette question des inégalités de genre au travail ?
Alors, depuis très longtemps, puisque dans le traité de Rome, il y a un article qui est dédié à l'égalité salariale, à ce principe de à travail égal, salaire égal. La raison pour laquelle, dans un article, dans un traité qui est essentiellement un traité économique, d'échanges commerciaux entre quelques grandes nations européennes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la raison pour laquelle il y a cette question-là, c'est parce que, et c'est d'ailleurs la France qui a poussé cet article, c'est parce que certains pays avaient le sentiment qu'ils faisaient des efforts, je reviendrai peut-être un peu là-dessus, en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, d'autres non, en l'occurrence l'Allemagne, et que du coup, il y aurait une concurrence déloyale dans quelques domaines, par exemple le textile, dans lequel il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient, et donc il y aurait eu une forme de dumping social, puisque les femmes françaises auraient été, à ce moment-là, discriminées, enfin les entreprises françaises auraient été discriminées par rapport aux entreprises allemandes. Du coup, ça a été intégré, et puis c'est devenu un principe juridique, parce que on voit bien que la raison pour laquelle c'est intégré, c'est quand même plutôt un principe de concurrence loyale entre ces pays-là, même si quand même il y avait déjà un principe de justice, puisque la raison pour laquelle la France était inquiète, c'est parce qu'elle avait déjà signé un traité de l'Organisation Internationale du Travail en 1919, dans lequel il était écrit que les femmes devaient être payées autant que les hommes à travail égal. Donc, oui, vous avez une espèce de dynamique qui fait des allers-retours entre la question économique et la question politique.
Et ça apparaît dans le droit à quel moment ? Dans le droit européen ?
Alors, dans le droit européen, ça prend vraiment de l'ampleur dans les années 60-70, puisque du coup, c'est mobilisé, cet article va être mobilisé pour créer vraiment du droit antidiscriminatoire au niveau européen. Il faut reconnaître que l'Europe a été extrêmement dynamique de ce point de vue-là. Et ensuite, en retour, les pays se sont vus dans l'obligation d'appliquer ce droit. Et donc, la question de la lutte contre les discriminations a été vraiment portée par cet article dans le traité de Rome. Et s'est étendue ensuite à un ensemble de directives et de politiques publiques plus larges proposées par l'Europe.
1976, cette directive européenne sur la question de l'égalité des rémunérations. Et puis ensuite, on arrive les années 90, où là, la stratégie de l'Europe, c'est d'abord et avant tout d'améliorer la participation des femmes au marché du travail.
C'est un double objectif. Ce qui est intéressant dans les années 90, c'est qu'il se passe quelque chose d'assez dynamique au sein des institutions européennes. Vous avez à la fois des actrices, je dis des actrices parce que c'est beaucoup des femmes, qui ont porté la question de l'égalité comme un principe dans les traités, dans les recommandations, dans les directives. Et puis, coup de chance, ça allait très bien avec une volonté générale de dynamiser le marché du travail et d'accroître la participation des femmes au marché du travail. Donc, vous aviez une espèce de convergence d'objectifs entre féminisme et questions économiques qui a permis une dynamique assez forte avec des directives assez contraignantes, alors en particulier par exemple sur les congés, sur l'égalité professionnelle, avec des objectifs chiffrés en matière de taux de participation des femmes au marché du travail. Donc on chiffrait à l'époque, les pays devaient atteindre un taux d'au moins de 60% de taux d'emploi des femmes. Donc tout ça était extrêmement volontariste. Par contre, c'est vrai que depuis les années 2000...
Ça marchait ?
Oui, parce que certains pays se sont conformés à ça. Par exemple, l'Allemagne, qui avait un taux de prise en charge des très jeunes enfants qui était extrêmement faible, eh bien, avec les objectifs qui étaient que un tiers des enfants de 0 à 3 ans doivent être pris en charge par une structure officielle à l'extérieur de la famille, l'Allemagne s'y est conformée. Elle a un petit peu plus d'un tiers. Il n'est pas du tout sûr que l'Allemagne aurait eu cette dynamique-là sans ces injonctions de l'Europe. Donc oui, ça marche d'une certaine façon.
Il y a une chose, Mathilde Gargoat-Larivière, je vais vous laisser réagir sur cette stratégie européenne vis-à-vis des inégalités de genre dans le monde du travail. Mais il y a une chose qui est quand même frappante, c'est que on pensait quand même que l'Europe visait au fond à harmoniser un peu les choses. En la matière, on n'a pas eu, semble-t-il, d'effet d'harmonisation. En tout cas, il y a encore de très très grandes disparités avec des pays pour qui le congé maternité, paternité, etc. sont très différents. Il n'y a pas eu vraiment l'effet d'harmonisation qu'on aurait pu attendre.
Non, bien sûr, il n'y a pas eu une harmonisation complète. En revanche, on peut quand même dire que sur l'accès des femmes au marché du travail, la participation, donc le taux d'emploi, disons, taux d'activité, taux d'emploi, il y a vraiment eu une très forte hausse dans quasiment tous les pays. Donc en termes
d'accès. Chacun ses outils.
Alors chacun ses outils, mais en même temps ça c'est aussi un petit peu l'optique de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on fixe des objectifs et ensuite puisque sur les politiques sociales ou les politiques d'emploi les États membres restent maîtres justement de leur propre jeu, il peut y avoir des objectifs fixés au niveau européen, mais chaque pays décide de comment les atteindre. Donc ça c'est assez ça va plutôt bien. Enfin c'est plutôt comme ça que l'Europe a raisonné dans ces champs-là, dans le champ de la politique sociale. Donc effectivement il y a quand même eu une convergence partielle des taux d'emploi, c'est-à-dire on a bien vu une augmentation des taux d'emploi des femmes dans tous les pays. Par contre, sur d'autres, bémol sur cette augmentation du taux d'emploi et sur le fait que justement on défend un objectif d'égalité femmes-hommes au niveau européen, ce qu'on a constaté sur les deux dernières décennies, c'est une très très forte progression aussi des taux d'emploi à temps partiel, notamment dans certains pays. Donc il y a évidemment les Pays-Bas qui sont très, on le sait, les VIA sont très, ont un taux de temps partiel très élevé, vraiment très au-dessus de tous les autres pays européens. Mais si on regarde le taux d'emploi à temps partiel des femmes, donc il est quasiment, c'est à près 3 femmes sur 4 aux Pays-Bas qui travaillent à temps partiel, mais il atteint presque aussi 50% maintenant en Allemagne. Donc ça veut dire que le temps partiel s'est énormément développé dans certains pays. Et donc en fait, dans certains pays, l'emploi des femmes s'est développé à travers le temps partiel. Et donc ça, on peut quand même discuter du fait que c'est quelque chose qui nous amène vers plus d'égalité, parce qu'on va peut-être justement arriver à se stabiliser dans un modèle qui est un espèce de modèle de monsieur gagne-pain amendé par le temps partiel.
Qui est précarisant pour les femmes.
Mais qui est très précarisant pour les femmes. Et puis après, sur les autres dimensions, sur la garde, il n'y a évidemment pas du tout de convergence non plus, il y a des disparités très fortes si on regarde les pays scandinaves. Il y a quand même des améliorations donc dans certains pays, effectivement, comme en Allemagne. Et on a vu des petites améliorations aussi dans certains pays de l'Est. Donc il peut y avoir un petit effet d'entraînement, mais c'est...
Je vais vous laisser réagir, Hélène Périvier, parce que j'ai vu que vous vouliez réagir, mais il y a un point peut-être, c'est sur la question du temps partiel. Est-ce que ça a été une question au moment pour l'Europe ? J'entends qu'effectivement, il y a eu cet effort très fort visant à mettre de plus en plus de femmes au travail, très bien, sauf que effectivement, elles se retrouvent largement à occuper l'emploi à temps partiel. En France, il y a 2 fois plus de femmes qui sont à temps partiel que d'hommes. Et c'est de toute façon toujours le cas en Europe. Est-ce qu'à un moment, au sein des institutions européennes, on s'est dit, ça c'est un problème, il va falloir le gérer.
Non, c'est pour ça que j'allais revenir un peu sur cette question-là. Les objectifs qui sont fixés, quand ils sont très précis, j'ai envie de dire, ils sont efficaces. Typiquement, la prise en charge des enfants de 0 à 3 ans, un tiers des enfants doivent être accueillis dans une structure collective, c'est relativement efficace parce que, bon, ben voilà, au moins vous avez un objectif assez clair. Même si on pourrait dire qu'ils ne sont pas forcément pris en charge à temps plein, etc. Mais quand vous avez un objectif assez flou qui est le taux d'emploi, vous laissez suffisamment de marge de manœuvre pour les pays membres pour ben voilà, développer le temps partiel. Typiquement, c'est ce qu'a fait l'Allemagne. Je redis le tweet que j'ai fait où vous verrez les taux d'emploi en équivalent temps plein sur le cycle de vie des femmes françaises et allemandes. Vous verrez qu'il y a une grosse chute du taux d'emploi en équivalent temps plein des Allemandes parce qu'elles recourent massivement au temps partiel. Et ça, l'objectif qui était fixé par l'Europe, qui était 60% de femmes, un taux d'emploi de 60% de femmes, ne le prend pas du tout en compte. Mmh. Donc si l'Europe avait voulu prendre cette question en compte, elle aurait pris comme indicateur le taux d'emploi en équivalent temps plein. Et là, on voit que quand on compare les pays, on a de très grandes disparités.
Quand on compare les pays, une fois encore, j'évoquais tout à l'heure au début de l'émission les modèles nordiques. Alors, il y en a plusieurs, hein, mais en quelques mots, je rappelle par exemple du côté de l'Islande, congé parental de 9 mois au total pour un couple dont un tiers au moins doit être pris par le père. Du côté de la Norvège, les mères et les pères sont obligés de s'arrêter de travailler pendant au moins 14 semaines après la naissance d'un enfant. Du côté de la Suède, chaque naissance occasionne 480 jours de congé que les parents se répartissent comme ils le veulent avec un minimum de 80 jours chacun. Est-ce que vous pensez, Mathilde Gergoat-Larivière, que de toute façon, on finira par arriver vers ce modèle-là? Est-ce qu'il vous semble qu'il est le plus pertinent et qu'il va falloir aller vers ce modèle?
Alors, est-ce qu'il va falloir aller vers ce modèle?
Qu'on ira.
Oui, voilà, d'un point de vue normatif, bon, ça c'est plutôt c'est mon point de vue, j'espère qu'on y arrivera.
Oui.
Simplement, je suis pas sûre que ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que je pense que justement, le développement très important du temps partiel pour les femmes dans certains pays, moi j'ai l'impression que c'est un équilibre sur lequel on peut rester. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien y avoir effectivement des pays dans lesquels la norme devient l'homme à temps plein et la femme à temps partiel. D'ailleurs, on pourrait aussi parler des durées de temps partiel, parce qu'en France, on a des durées de temps partiel qui sont relativement plus longues que dans d'autres pays. Et je pense que les temps partiels qui posent le plus problème, si on veut graduer un peu les problèmes, c'est les temps partiels courts. Et donc, dans certains pays, dont l'Allemagne, c'est vrai que les temps partiels qui se sont développés, c'est des temps partiels avec des nombres d'heures plus faibles, par exemple, qu'en France. Et ça pose des problèmes importants pour les femmes qui sont sur ces emplois-là, notamment en termes de protection sociale. Il y a aussi des emplois qui se sont développés en Allemagne, qui s'appellent les mini-jobs, enfin, des emplois précaires. Et donc, en fait, ça ne fonctionne que si les femmes sont en couple et qu'elles peuvent profiter de la protection sociale de leur conjoint. Donc en fait, on voit qu'on reste sur un modèle de monsieur gagne-pain amendé par le temps partiel, mais pas pas d'indépendance des deux conjoints d'un point de vue économique via leur emploi. Et puis je rebondis sur ce que disait Hélène sur le fait qu'on aurait pu choisir comme objectif le taux d'emploi en équivalent temps plein. Je pense qu'on peut considérer que, bien sûr, l'Europe essaye de fixer des objectifs généraux, un peu larges, pour que tous les pays s'y retrouvent. Mais de fait, avoir comme objectif un taux d'emploi à un certain niveau, sans prendre en compte le fait que ça puisse être justement des temps complets ou des temps partiels, c'est, d'une certaine manière, accepter complètement le fait que développer des temps partiels, y compris courts, soit une manière d'atteindre cet objectif. Donc ça veut dire que voilà, on prend pas en compte ça.
Hélène Périvier.
Oui, je reviens sur votre question sur est-ce qu'il faudrait qu'on fasse comme nos voisins nordiques.
En fait, je l'ai mal formulé, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on doit y revenir parce que économiquement, c'est rationnel. Voilà, c'était ça ma question.
Alors ça, c'est une autre question, parce que je ne pense pas qu'on puisse piloter des politiques d'égalité sur cette base-là, mais on pourra y revenir.
Sur la question de la rationalité économique.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est d'abord une question politique. Voulons-nous l'égalité femmes-hommes? Si nous la voulons, comment y arriver? Donc si nous la voulons, partons du principe que nous la voulons, il y a quand même plusieurs chemins pour y arriver. Le modèle nordique, c'est un modèle dans lequel vous avez ces congés parentaux que vous avez bien décrits. Ils ont commencé par faire des congés bien rémunérés pour les femmes, puis se sont rendus compte que les pères les prenaient pas, que c'était dommageable à l'égalité professionnelle. Donc, ils ont introduit des dispositifs qui contraignent ou incitent ou encouragent les hommes à le prendre. Mais il faut bien se rendre compte que dans les pays nordiques, on ne confie pas son enfant à quelqu'un d'autre que soi la première année ou la première année et demie. Alors qu'en France, on peut parfaitement travailler, mettre son enfant qui a 3 mois à la crèche. Personne ne va vous dire que vous êtes un mauvais parent. Je pense que c'est une valeur que nous devrions conserver. Et donc, conserver cette idée qu'on peut aussi ne pas vouloir prendre un congé parental, alors que dans les pays nordiques, on est obligé de prendre un congé parental et créer un système qui soit effectivement mieux partagé. Alors c'est un tout petit peu plus contraignant du point de vue de l'égalité femmes-hommes, mais je trouve que c'est un tout petit peu plus porteur du point de vue de la liberté de chacun de travailler, de passer du temps avec ses enfants, etc.
Et par ailleurs, donc l'argument purement économique est un argument qui cache les vrais enjeux, c'est ça que j'entends.
C'est pas vraiment ça, c'est que si on motive des politiques d'égalité sur la base d'une performance économique attendue, ben on prend le risque que s'il n'y a plus de performance, ben on arrête de mettre en place ces politiques d'égalité.
On est avec vous Hélène Périvier et vous Mathilde Gergoat-Larivière dans cette série consacrée au genre, aux inégalités de genre. Aujourd'hui on parle du travail, la maternité, l'éternel obstacle. On va quitter l'Union Européenne pour aller du côté du Japon.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Le Japon qui est un pays particulièrement mauvais, j'allais dire, en termes d'inégalité de genre, puisqu'elles sont extrêmement fortes, classées 104e dans le rapport Global Gender Gap de 2019, publié par le Forum économique mondial. Comment expliquer un tel retard pour l'un des pays les plus riches de la planète et qui, sur bien des aspects, a embrassé quand même la modernité? Les choses sont-elles en train de changer? Peut-être, à en croire ce ministre de l'Environnement, qui a créé la surprise en annonçant qu'il prenait un congé paternité.
J'ai reçu divers commentaires positifs de la communauté internationale. J'ai évalué les avantages et les inconvénients. Je voudrais obtenir du temps pour ce que l'on appelle un congé de paternité tout en maintenant mes fonctions pour être prêt en cas d'urgence.
Shinjiro Koizumi, ministre de l'Environnement. Alors, a priori, ça n'a rien d'être de très étonnant puisque la législation nippone permet de prendre un congé qui va jusqu'à 6 mois lorsqu'on vient d'avoir un enfant. Mais dans les faits, on va le voir, l'archipel peine encore à s'extraire de cette vision conservatrice, voire carrément archaïque de la famille. On va retrouver Isabelle Konuma. Vous êtes professeure de droit japonais à l'INALCO et chercheuse à l'IFRAE, l'Institut français de recherche sur l'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Est, pardon. Isabelle Konuma, ce jeune ministre japonais a été le premier membre d'un gouvernement à prendre un congé paternité. Est-ce qu'il faut y voir une évolution des mœurs ou des pratiques ou finalement c'est totalement anecdotique?
C'est une mesure qui existe depuis 1991. C'est une des mesures phares d'ailleurs qui permettrait donc d'augmenter la fécondité qui est donc en baisse depuis les années 1990. Et donc il a pris ce congé parental. C'est une sorte de mesure symbolique de sa part, puisque normalement, on a la possibilité de prendre 1 an. C'est une mesure assez exceptionnelle, même sur le plan mondial. Or, il a pris donc 2 semaines, réparties sur plusieurs semaines. Mais en tout cas, ça a fait beaucoup parler au Japon. Il y a eu des réactions mitigées, extrêmement enthousiastes, mais aussi critiques vis-à-vis de cette prise de décision.
Parlons justement peut-être du premier ministre nippon, Shinzo Abe, qui en 2016 avait lancé un grand programme d'aide à l'insertion des femmes dans le monde du travail. Il faut redonner leur place aux femmes au travail, il faut qu'elles brillent, avait-il lancé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'il y avait derrière les discours à l'intérieur de ce programme et les effets qu'on peut mesurer aujourd'hui?
Donc le Japon est toujours extrêmement en retard en termes de représentativité politique, économique. Et donc l'une des mesures vraiment essentielles du gouvernement Abe est de dire que les femmes doivent briller. Effectivement, c'est bien le mot qui est utilisé. Sauf que l'ensemble de ces mesures, en fait, se porte davantage sur les femmes que sur les hommes. C'est pour ça que cet équilibre entre les mesures destinées aux femmes et les mesures destinées aux hommes paraît totalement déséquilibré et montre bien en fait le poids qu'on donne sur les femmes pour à la fois la fécondité, donc il faut effectivement augmenter cette fécondité, donc derrière cette mesure il y a une politique nataliste évidente, mais aussi tout ce qui concerne l'économie également, on considère que c'est aux femmes de rééquilibrer les choses. Donc à un moment donné, l'ensemble de ces mesures rencontre une limite, c'est bien pour cela que ces dernières années le gouvernement avait essayé de mettre l'accent sur la participation des hommes, des pères, donc ils essayent de susciter en fait plus d'enthousiasme pour, par exemple, faire circuler des images de pères en train de changer les couches de bébé, en montrant que un homme qui travaille c'est aussi un père et les deux doivent parfaitement être compatibles dans la société japonaise. Mais cette mesure en fait a extrêmement du mal à être acceptée au sein de la société puisque le modèle de l'homme au travail est tellement profondément ancré et également compensé par une mère qui devrait rester donc auprès de la famille, etc. Ce modèle est extrêmement présent dans la société japonaise.
Une autre chose peut-être qu'il faut qu'on évoque ensemble, c'est la question des crèches. Parce que ce qu'on constate, c'est que l'arrivée d'un enfant, alors c'est vrai en général, mais c'est vrai en particulier au Japon, a pour effet de couper les femmes du monde du travail. Au Japon, c'est 40% des femmes qui arrêtent de travailler après leur premier enfant. Donc pour l'empêcher, il faut évidemment des crèches pour accueillir ces enfants. Et Shinzo Abe s'était engagé justement en la matière. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Alors c'est une ancienne mesure qui date de 2001. Dans les années 2000, on a proposé plusieurs plans pour augmenter le nombre en crèche, atteindre zéro enfant en liste d'attente, etc. Mais cette mesure, en fait, plus elle avance, plus suscite des besoins au sein de la population féminine et ne permet jamais de compenser en réalité ce manque qui existe actuellement dans la société japonaise. Donc c'est une mesure qui est importante, mais qui ne peut pas, absolument pas suffire en soi. Et encore une fois, il faudrait aussi une répartition sexuelle des tâches au sein du foyer, en quelque sorte, permettre aux hommes, par exemple, de revenir plus tôt à la maison. Actuellement, le modèle masculin dans le travail, c'est quelqu'un de totalement disponible pour le travail, éventuellement, être muté ailleurs, etc. Donc, c'est quelqu'un qui va être quasiment à 100% disponible au service de l'entreprise. Et donc, c'est bien ce modèle-là qui pose problème aujourd'hui. Mmh. Du côté des femmes, on essaye presque absolument toutes les mesures, mais on voit bien que ça ne fonctionne pas.
Mmh. Est-ce qu'on peut attendre, finalement, des avancées de la part des entreprises elles-mêmes? Il y a, au Japon, un label family friendly avec des entreprises qui s'engagent à respecter d'abord évidemment la législation, mais qui aussi essayent d'être plus accueillants envers les femmes, de faire des efforts, mais c'est sans obligation aucune. Est-ce que ces labels ont un effet notable? Est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce que là encore c'est du pur affichage, c'est de la communication, mais derrière concrètement il n'y a pas grand-chose?
Alors il y a des deux, hein. Effectivement, il y a ce côté affichage, montrer que le Japon fournit des efforts dans ce domaine. La limite de cette mesure, c'est que c'est une obligation de moyens. Donc les entreprises n'ont pas besoin d'atteindre, par exemple, les pourcentages qu'ils auraient fixés en termes de congé parental, par exemple. Actuellement, il y a seulement 6% des pères qui prennent ce fameux congé de paternité. Le gouvernement voudrait que ce pourcentage atteigne 13%. Donc, les entreprises peuvent parfaitement intégrer ce type de dispositif dans leur plan d'action. Mais après, il n'y a aucune obligation quant au suivi, quant à l'application effective en fait de ce plan. Il y a aussi, bien sûr, la valorisation de ces entreprises qui obtiennent ce fameux label. Et donc, très certainement, il y a des enjeux là financiers derrière par ailleurs, mais il faut bien sûr que la société suive ce type de mesures. Mais effectivement, on voit quand même que ces mesures ont un impact. Hein. Donc, une sorte de campagne publicitaire, disons. Il faut changer de modèle, mais encore faut-il que ces mesures soient suivies par la société, ce qui semble pour l'instant encore un peu compliqué.
Isabelle Konuma, je voudrais qu'on évoque un instant un phénomène qui est assez répandu au Japon, qui est celui du harcèlement des femmes justement qui tombent enceintes. C'est un harcèlement qui peut même aller jusqu'à la démission. C'est un phénomène tellement important au Japon qu'il a un nom, on appelle ça le matara. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots l'ampleur de ce phénomène et peut-être nous rassurer en nous disant qu'il est sur le déclin, enfin on l'espère?
Donc c'est précisément une forme de discrimination au sein de l'entreprise qui est, si ça peut vous rassurer, formellement interdite hein, normalement depuis 1986 lorsque le Japon a signé la convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Plusieurs lois ont été promulguées pour l'égalité homme-femme dans le travail, dans le domaine de la nationalité par exemple. Donc depuis, théoriquement, aucune discrimination n'est tolérée à l'embauche, au moment de la promotion, au licenciement, la retraite, etc. Et donc cette loi a plusieurs fois été modifiée donc, avec des dispositions contre le harcèlement sexuel au travail. Mais le problème, je ne sais pas si je peux vous rassurer, mais c'est ce décalage qui existe entre ce cadre légal et les pratiques au sein de l'entreprise. Par exemple, si un homme décide de prendre un congé de paternité, très souvent, ce qu'on entend, et d'ailleurs, il y a des procès en cours dans ce domaine, c'est que quand ils reviennent après leur congé de paternité, ils se retrouvent avec des tâches beaucoup moins valorisantes. Et donc, il y a au moins, à ma connaissance, 2 ou 3 cas où on mettrait en cause la responsabilité de l'entreprise. Pour l'instant, je n'ai pas vu de verdict. Mais voilà, il y a cette loi, effectivement, hein, qui est là pour protéger. Après, il faut voir comment elle est appliquée, comment elle est suivie au sein des entreprises et comment, surtout, la population japonaise a intériorisé, en fait, cette mesure qui interdit cette discrimination, encore une fois, au travail.
Il y a aussi parfois un décalage entre les lois elles-mêmes, entre les dispositifs, entre les réglementations. Par exemple, lorsque les femmes retournent éventuellement à l'emploi après que l'enfant ait fini ses études et qu'il soit bien installé dans la vie active, elles ont la possibilité évidemment de retourner dans le marché du travail, sauf que là, on les invite à finalement ne pas trop s'investir dans ce marché du travail, puisque fiscalement, pour demeurer un conjoint à charge, le statut du conjoint à charge, il ne faut pas dépasser un certain plafond. Donc on voit bien que lorsque les femmes reprennent un emploi, c'est nécessairement un emploi qui est peu, qui est mal payé, et qu'au fond, la dépendance financière à l'égard du mari est quasiment planifiée, organisée.
Oui, tout à fait. C'est cette fameuse courbe en M qu'on nomme au Japon. Donc ça montre bien en fait ce parcours professionnel à travers le taux d'activité féminin. Donc jusqu'à 25-35 ans, donc le taux d'activité féminin est assez élevé, 80%. Après, donc il y a cette descente qui commence à s'estomper aujourd'hui. Donc la courbe en M n'est plus vraiment un M comme avant. Mais néanmoins, il y a une diminution en termes de taux d'activité lorsque la femme, c'est pas le mariage qui détermine cette interruption de carrière, c'est plutôt l'arrivée du premier enfant. 40% environ des femmes arrêtent à ce moment-là de travailler. Et donc, quand elles reprennent le travail, ce n'est plus pour l'ancien poste qu'elles occupaient. Donc, très souvent, c'était un CDI. Après, elles reprennent, mais avec un poste beaucoup plus précaire. Et donc, elles ne cherchent pas non plus, en fait, à reprendre à temps plein, puisque, comme vous dites, il y a cette fameuse histoire, donc, de conjoint à charge qui permet, en fait, d'obtenir une sorte d'exonération fiscale. Donc, il faut surtout pas atteindre un certain nombre de durée de travail ou alors de salaire pour pouvoir rester en quelque sorte à charge. Et même si les dispositions fiscales sont neutres, on ne dit pas la femme, l'épouse ou l'époux, etc. Mais on sait très bien que ce sont les épouses qui finalement en profitent. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind.
Merci beaucoup Isabelle Konuma d'avoir été avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes professeure de droit japonais à l'INALCO. Un grand merci également à nos deux invités, Hélène Périvier et Mathilde Gergoit-Larivière. Mais Hélène Périvier, vous aviez un tout petit mot conclusif à ajouter.
Juste pour dire que si nous voulons vraiment l'égalité, il va falloir aller chercher dans nos politiques sociales, familiales, fiscales et la régulation du marché du travail pour pouvoir y arriver.
Mathilde Gergoit-Larivière, une petite frustration?
Oui, on peut espérer plus de volontarisme au niveau européen et éventuellement que le gouvernement français le pousse un peu, puisque c'était un des objectifs du quinquennat, la lutte contre les inégalités.
Merci beaucoup à toutes les deux. Avec cette très belle musique d'Holly Parton 1980 qu'on se quitte. Je le dis parce que je sais que vous êtes nombreux les auditeurs et les auditrices à vous demander ce que c'est. Donc on va mettre évidemment la référence sur le site de France Culture, sur la page de Culture Monde. Et ce morceau, évidemment, celui qui vient maintenant, il l'avait évidemment reconnu.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
En mélomane qu'il est. Bonjour Brice Couturier.
J'adore Dolly Parton.
Ouais, moi aussi. Erdogan, Brice Couturier, est en train de récolter ce qu'il a semé. La Turquie est menacée d'un désastre. Voilà l'un des titres du Guardian.
Eh oui, sous la plume de son spécialiste du Moyen-Orient, Simon Tisdall, on lit dans le grand quotidien britannique que le président turc est victime de son hubris. De son côté, Judy Dempsey, la responsable du département Europe de Think Tank Carnegie, annonce, je cite,
d'avance que le prix que va devoir payer la Turquie pour la guerre qu'elle mène en territoire syrien sera très élevé. Au nom des gloires passées d'un empire ottoman dont il se croit l'héritier en ses palais, le néo-sultan Erdogan est intervenu bien imprudemment dans les anciennes colonies de la Turquie, Syrie d'abord, Libye à présent. Mais il n'est pas le maître du jeu. En Syrie, celui qui décide aujourd'hui c'est Vladimir Poutine, le néo-tsar d'un autre empire, rival traditionnel de la Turquie, et qui n'a pas les mêmes intérêts et qui est militairement beaucoup plus puissant. Alors reprenons depuis le début si vous voulez bien. Erdogan a cru pouvoir prendre la tête des printemps arabes en renversant le dictateur syrien Bachar al-Assad. Il a d'abord mené contre son voisin une guerre par procuration en équipant et en appuyant des groupes armés islamistes. Il a accueilli volontiers sur son sol tous les candidats européens au djihad en Syrie, les aidant à passer la frontière pour aller terroriser les populations de l'autre côté. Ensuite, il a décidé d'aller chasser de leurs enclaves du nord, est syrien, les Kurdes et leurs alliés arabes qui s'y étaient taillés un abri. Donald Trump l'a laissé faire, trahissant ainsi les Kurdes, ses fers de lance du combat des forces anti-Assad démocratiques. Mais Poutine, lui, est bien décidé à garder la Syrie. À travers l'opération de force qu'il a conduite au profit de son protégé Bachar el-Assad, il cherche à montrer à l'opinion mondiale que la Russie, elle, n'abandonne jamais ses alliés, surtout les moins présentables. En liaison avec l'armée iranienne et ses supplétifs, il procure donc à l'armée syrienne, outre des forces spéciales au sol, un appui aérien déterminant. Et c'est à ce renfort que le dictateur syrien doit d'avoir reconquis l'essentiel d'un pays qui s'était révolté contre lui.
Au prix de crimes de guerre contre les civils que l'ONU vient de dénoncer, preuve à l'appui, Brice.
Et oui, dans le bastion d'Idlib, résiste à l'entreprise de reconquête syrienne, appuyée donc par Moscou, Ankara, qui dispose sur place de 2000 véhicules blindés, y a envoyé le mois dernier un renfort de 7000 soldats. Il s'agit d'une invasion, en bonne et due forme, d'un territoire d'un État voisin. En réplique au bombardement russe, qu'Erdogan feint d'attribuer à el-Assad, l'armée turque a attaqué un aéroport militaire et des sites de radar syriens. Selon la presse turque qui s'en indigne, l'armée de Bachar aurait répliqué en tuant 33 soldats turcs. Or, les véritables auteurs pourraient bien être les Russes. Et le bilan, nettement plus lourd. Mais Erdogan n'a pas intérêt à le reconnaître. Et pour lui permettre de sauver la face, Poutine a permis aux Turcs de se venger de leurs ennemis syriens pendant 48 heures, en leur retirant provisoirement sa couverture aérienne. Comme l'écrit Simon Tisdall, le danger de la situation, c'est qu'on est passé d'une guerre par procuration à un affrontement armé ouvert entre deux puissances militaires voisines, la Turquie et la Syrie. Alors que Poutine, lui, n'a qu'une idée, c'est de mettre fin à cette guerre afin de consolider ses positions sur place. Cette situation dangereuse se double d'une nouvelle catastrophe humanitaire, parce que les combats pour la poche d'Idlib ont contraint 1 million de réfugiés à chercher en plein hiver un abri près de la frontière turque qui leur demeure hermétiquement fermée. Erdogan, qui se moquait hier encore de ses alliés de l'OTAN en achetant des missiles russes S-400, se dit à présent furieux de ne pas être épaulé par eux dans ses aventures guerrières de Syrie. Et il vient de lancer une véritable attaque contre l'Union européenne, pour reprendre l'expression employée hier par le Premier ministre autrichien. Car revenant sur les termes de l'accord qu'il avait conclu en 2016 avec la chancelière allemande, et qui prévoit que la Turquie héberge provisoirement sur son sol 3 600 000 Syriens échappés de l'enfer en échange d'une aide européenne de 6 milliards d'euros, il menace l'Europe de lui envoyer, je cite les propos d'Erdogan, des millions de migrants. Des autobus spécialement affrétés transportent des milliers de candidats à l'immigration en Europe vers la frontière grecque, porte d'entrée de l'Europe. Et Ankara annonçait avant-hier que 150 000 migrants et réfugiés étaient prêts à s'embarquer vers les îles grecques. Plutôt que d'oser affronter son allié russe, Erdogan a décidé de s'en prendre à l'Union européenne parce qu'il la juge faible. C'est un jeu dangereux, car l'Union est justement en train de prendre conscience des dangers que lui fait courir cette faiblesse, et aucun dirigeant des 27 n'est prêt à assumer l'impopularité d'une nouvelle crise des migrants. Ne pas oublier en outre qu'Ursula von der Leyen est une ancienne ministre de la Défense.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.